Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shvurot, page 5, Daf He. Bonne écoute et bon limoud.
Tribouillé ou meouté, d'inclusion et d'exclusion. Selon lui, le terme de Velakarta, tu prendras, est une inclusion. Martia est une exclusion. Venatata beozno, et tu le placeras dans son oreille. Il s'agit à nouveau d'une inclusion. Donc tout objet sera inclus, on n'exclura qu'une seule chose. La Gemara dans Kiddushim explique qu'on exclura l'utilisation de produits chimiques. Finalement, nous voyons que selon Rebbi, les psukim sont interprétés sous forme de généralité et de détail, et non pas sous forme d'inclusion et d'exclusion. La Gemara répond, in, effectivement, Be'alma, Klale ou Praté d'Arish, en général, Rebbi interprète les psukim sous forme de généralité et de détail. Be'acha, mais ici, concernant le rachat du premier-né, Hainutama, voici la raison pour laquelle il interprète les psukim d'une manière différente et il les interprète sous forme d'inclusion et d'exclusion. Que des Tana de Rabbi Ishmael, comme il a été enseigné une braïta dans le Beta Midrash de Rabbi Ishmael. Des Tana de Rabbi Ishmael, parce qu'il a été enseigné dans une braïta dans le Beta Midrash de Rabbi Ishmael. Concernant l'interdiction de consommer les créatures qui vivent dans l'eau s'ils ne possèdent pas d'écailles et de nageoires. Alors, le pasouk dit dans Vaikra Kafalef, Bamaim, Bamaim, Shne Pamim. Le pasouk emploie à deux reprises l'expression dans l'eau. En effet, le pasouk dit, c'est cela que vous mangerez de ce qui vit dans l'eau. Toute créature qui a des écailles et des nageoires dans l'eau, dans les mers et dans les rivières, vous pourrez les consommer. Alors, l'auteur de cette braïta du Beta Midrash de Rabbi Ishmael dit, lorsque ce pasouk a utilisé ces expressions dans l'eau à deux reprises avant de mentionner les détails dans les mers et dans les rivières, enze klal uprat, il ne s'agit pas d'une généralité suivie d'un détail, et là, riba ou miet, mais plutôt le pasouk sera interprété sous forme d'inclusion et d'exclusion. Comme la Gemara l'explique dans Chulin Daf Samer Zayin, que ne seront interdits les créatures qui n'ont pas d'écailles et de nageoires, uniquement s'ils vivent dans une étendue d'eau courante, par exemple dans une rivière, ou même dans un fossé, ou dans une tranchée. Mais si ces créatures vivent dans de l'eau contenue dans un récipient ou même dans un puits qui est limité, on pourra la consommer même s'ils ne possèdent pas d'écailles ou de nageoires. Les vers d'eau seront donc permis s'ils se trouvent dans un puits ou dans un récipient. Rebbi suit l'opinion de Rabbi Ishmael. Selon lui donc, lorsque le pasouk dit dans Bamidbar Yudchet, Uvduyav mi ben chodesh tivde, et son rachat à partir de l'âge de 1 mois, tu le rachèteras, il y a donc deux généralités qui se suivent avant le détail, ce pasouk sera interprété sous forme d'inclusion et d'exclusion. Mais ailleurs, par exemple, concernant le poinçonnement de l'esclave juif, Rebbi sera d'accord que nous interprétons les psukim sous forme de généralité et de détail. Verabanan et les chachamim qui sont en désaccord avec Rebbi, et selon eux, même les psukim concernant le rachat du premier-né sont aussi interprétés sous forme de généralité et de détail. Cela parce que Amar Ravina, Kedam Rebbe Ma'arava, comme les Chachamim le disent en Eretz Israël, Kol Makom Shata Motse Shte Klalot Asmuchot Zeleze, partout tu trouves deux généralités qui se suivent, qui sont suivies à leur tour d'un détail, Hatel Prat Benehem, insère le détail entre les deux généralités, Vedunam Bechlal Uprat, et interprète-les sous forme de généralité suivie d'un détail, suivie d'une généralité. Donc finalement, il y a une discussion entre les sages d'Eretz Israël et Rabbi Ishmael. Rebbi suit l'opinion de Rabbi Ishmael. Et les Chachamim suivent l'opinion des sages d'Eret Israël. Alors la Gemara demande, Hashta de Amart Rebbi Klale Uprate Darish, maintenant que tu conclus que selon Rebbi nous interprétons en général les Tsukim sous forme de généralité et de détail, Balkorcher Kashia Shvuot, malgré toi, tu auras la question concernant les lois des serments. C'est-à-dire que tu ne pourras pas dire que selon Rebbi, les serments sur le passé nécessitent l'offrande d'un korban, puisque selon lui, nous interprétons les Tsukim sous forme de généralité et de détail. Comme nous l'avons vu précédemment, si nous interprétons les psukim de cette manière, nous excluons les serments sur le passé. Finalement, on ne pourra pas dire que Rebbi a enseigné sa propre opinion concernant les serments. Et là, Beshvuot, plutôt concernant les lois des serments, Nassiv Alibad Rabbi Akiva, il a enseigné notre Mishnah selon l'opinion de Rabbi Akiva, Veleh Los Virele, tandis que lui ne pense pas comme ça. Nous avons fini ici le shiur de Shvuot Daf Dalet. Nous commençons le shiur de Shvuot Daf He. À la fin de la 10e ligne du haut de la page, aux deux points. Goufa, la Gemara reprend la Braïta qui a été enseignée plus haut dans le daf précédent. Alors la Braïta dit, Minayin she'eno chayav 17 ans qui ne sera pas coupable, c'est-à-dire 17 ans qui n'aura pas l'obligation d'offrir un korban. Et là, al shiyeshba yedia betrila, seulement dans le cas où il savait au début qu'il était impur et qu'il s'agissait du Beit HaMikdash ou de la viande d'un korban, veidia basov, et il a pris conscience à la fin qu'il a fauté, ve'elem bentaim, il y a eu un oubli entre-temps, lorsqu'il a fauté en pénétrant dans le Beit HaMikdash ou en consommant de la viande d'un korban tout en étant impur. Alors d'où sait-on qu'il faut avoir une prise de conscience avant de fauter et après avoir fauté? La Breta répond, Talmud Lomar, parce que le Passouk nous dit dans Vaikrahe, concernant celui qui faute en pénétrant dans le Beit HaMikdash tout en étant impur, Vene'elam, Shnepeamim, le Passouk s'exprime en employant à deux reprises le terme de Vene'elam, il a oublié. Alors, comme nous l'avons expliqué dans le daf précédent, selon Rabbi Akiva, le premier Vene'elam nous enseigne qu'il n'aura l'obligation d'offrir le korban que s'il a oublié qu'il était impur, mais s'il a oublié qu'il s'agissait du Beit HaMikdash ou de la viande d'un korban, l'offrande du korban ne sera pas obligatoire. Le deuxième Vene'elam est interprété en insérant l'expression Vehuyada, et il a pris conscience avant le terme de Vene'elam, il a oublié, pour nous enseigner qu'il faut qu'il ait eu conscience d'avoir été impur et qu'il s'agissait du Beit HaMikdash avant de l'oublier lorsqu'il a fauté. D'ivrei Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Omer, enotzarich, il n'est pas nécessaire de déformer le pasouk de cette manière, mais plutôt, le pasouk sera interprété comme suit. Harehu Omer, voici le pasouk dit, vene elam, et il a oublié, miklal sheyada. Nous pouvons déduire donc qu'il savait auparavant. Lorsque le pasouk conclut en disant, vehu yada, et il a su qu'il a fauté, harekan shte idiot, il y a donc ici deux prises de conscience, une avant d'avoir fauté et une après avoir fauté. Imken matalmud lomar vene'elam. Si c'est ainsi, pourquoi le pasouk emploie le terme de vene'elam, il a oublié une deuxième fois, le chayev al he'elem tuma ve'al he'elem mikdash, pour le rendre coupable, donc pour rendre obligatoire l'offrande du korban, même soit pour l'oubli de son état d'impureté, soit pour l'oubli du fait qu'il s'agissait du Beit HaMikdash ou de la viande d'un korban. Nous avons expliqué cette braïta plus longuement dans le daf précédent. La Gemara cependant va reprendre l'interprétation de Rebbi. Amarmar, la Gemara reprend le passage de la Braïta donc de l'opinion de Rebbi, qui dit comme suit, Vene'elam, lorsque le pasouk dit il a oublié, miklal shiada, nous pouvons déduire donc qu'il le savait auparavant. Alors, la Gemara demande, mais emashma, comment déduisons-nous que lorsque le pasouk dit Vene'elam, il a oublié, cela veut dire qu'il le savait auparavant? La Gemara répond, Amarava, midelokhtiv, vehi aluma mimenu, puisque le pasouk ne s'exprime pas en disant, et cette chose lui était caché. Autrement dit, le pasouk s'exprime d'une manière qui peut être aussi interprétée au futur, et il a oublié. Alors que si le pasouk s'était exprimé en disant Vehi Aluma, on aurait compris, et la chose était cachée de lui, donc depuis toujours. Amarle, Abaye, Abaye a posé la question suivante à Rava, et la Meata, si c'est ainsi, Gabesota, concernant la femme soupçonnée d'adultère. Dirtiv, à propos de laquelle le pasouk dit dans Bamidbarhe, et un homme a cohabité avec elle, Vene'elam, Me'eneisha, et la chose a été cachée de son mari. Alors le pasouk conclut en disant que cette femme sera amenée au Beit HaMikdash et le Kohen procédera à une cérémonie au cours de laquelle elle boira de l'eau. Et si elle a commis l'adultère, elle mourra. Alors pour nous dire la même chose que lorsque le pasouk dit Vene'elam et la chose a été cachée de son mari, Michlal, Dehavei Adam et Ikara, nous pouvons donc déduire qu'il le savait auparavant. Et en fait le pasouk nous dit que le mari a oublié qu'elle a commis l'adultère. Alors la question se pose, Ihaveyada, si effectivement le mari savait que sa femme a commis l'adultère, Mibadkula Maya, est-ce que l'eau qu'elle va boire au cours de cette cérémonie va la vérifier, c'est-à-dire va déterminer s'il a commis ou non l'adultère? Vehatania, pourtant il est enseigné dans une braïta concernant cette femme. Voici que le pasouk dit dans Bamidbarhe, Venika Haish Meavon, et l'homme sera acquitté de toute faute, Vehaisha Hahi Tisa Etavona, et cette femme portera son péché. Alors le pasouk veut nous dire qu'après cette cérémonie, si cette femme n'est pas morte, son mari pourra être tranquille, elle lui sera permise. D'autre part, le pasouk nous enseigne aussi que l'homme, donc le mari, n'aura pas à avoir de remords si sa femme est morte au cours de cette cérémonie, parce que finalement, c'est elle qui a fauté en commettant l'adultère. Alors la Braïta interprète le pasouk de la manière suivante. Bizman Shea Ish Menuke Me'avon, lorsque l'homme est quitte de tout péché, Hamaim Bodkin et Ishto, l'eau vérifie sa femme, donc détermine si elle a commis l'adultère ou non. En ha'ish menuke me'avon, mais si l'homme n'est pas quitte de tout péché, en ha'maim bodkin et ishto, l'eau ne vérifie pas sa femme, ne détermine pas donc si elle a commis l'adultère ou non. Donc puisque la Torah interdit de cohabiter avec cette femme tant qu'on n'a pas déterminé si elle a commis l'adultère ou non, alors s'il est vrai que son mari était au courant qu'elle a commis l'adultère et quand même il a cohabité avec elle, il se trouve donc qu'il n'est pas quitte de toute faute et l'eau ne la vérifiera pas, ne déterminera donc pas si elle a commis l'adultère ou non. Finalement, on ne pourra pas traduire le terme de Vene'elam concernant cette femme soupçonnée d'adultère que le mari a oublié, sous-entendu qu'il le savait auparavant. Vetu, et en plus, Gabé Torah concernant la Torah dictive à propos de laquelle le pasouk dit dans Yov Kafret, Vene'elma me'ene kolchai, elle a été cachée de tout vivant, ou me'of hashamayim nistara, et elle a été cachée des oiseaux du ciel, Miklal de'ika de Havayada, pourrons-nous aussi interpréter ce pasouk de manière à dire que quelqu'un connaissait la Torah auparavant, Behartiv, pourtant le pasouk dit dans Iov Kafret, toujours dans le même chapitre, donc, Loyada enosherka, aucun homme n'a connu sa valeur. Finalement, nous voyons de ces psukim que lorsque le pasouk s'exprime en disant venez l'âme, cela ne veut pas dire que la personne en question le savait auparavant. L'agma répond, Ela Amarabaye, c'est pour cela qu'Abaye dit, Kasavar Rebi, Rebi pense, Yediat Bedrabo Shema Yedia. Le savoir qu'il a pris chez son maître, donc chez son instituteur, est considéré comme étant une connaissance. Autrement dit, il est vrai que du terme Vene'elam, nous ne pourrons pas apprendre que l'homme savait effectivement qu'il était impur ou qu'il s'agissait du Beit HaMikdash, mais le pasouk nous enseigne qu'il avait une connaissance générale de ce sujet. Autrement dit, il savait que si quelqu'un touche un reptile mort, devient impur, ou bien il savait que le Beit HaMikdash existait et qu'il est interdit d'y pénétrer tout en étant impur. Or, ce type d'interprétation pourrait être aussi appliqué dans les psukim que nous avons mentionnés. Par exemple, lorsque le pasouk dit « Vene'elam meneisha » et le mari ne savait pas s'il a commis l'adultère ou non, là aussi nous dirons que le mari avait une connaissance générale du sujet, qu'il est interdit de commettre l'adultère, et si la femme commet l'adultère, elle lui est interdite. Ou bien concernant la Torah, dans Yov Kafret, nous dirons aussi que les hommes avait une connaissance générale que la Torah existait et qu'elle était grande. Amarle, Rav Papa le Abaye, Rav Papa a posé la question suivante à Abaye, et là des Katané, ce que nous avons enseigné dans notre Mishnah, Enba Yedia Betrila, dans le cas où il n'y avait pas eu de prise de conscience au début avant de fauter, Veyeshba Yedia Basof, mais il y a eu prise de conscience à la fin, après avoir fauté, alors la question se pose, Mika Deletle Yediat Betrabo, existe-t-il une personne qui n'a pas eu de savoir qu'il a appris chez son maître? Autrement dit, existe-t-il quelqu'un qui n'était pas au courant que le fait de toucher un reptile mort le rend impur? Amarle, Abaye lui répond, In, effectivement, on peut trouver quelqu'un qui n'a pas cette connaissance qu'il a apprise chez son maître. En effet, Mashkachatla, nous pouvons trouver un cas pareil, Betinok Shenishba, le Ben Hanochrim, dans le cas d'un petit enfant qui a été pris en captivité pour être placé parmi des goyim. À ce moment-là, il n'a donc jamais appris la Torah, il n'était jamais au courant donc que le fait de toucher un reptile mort le rend impur. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Yetziot Shabbat Shtaim Shen Arba ». Les cas concernant l'interdiction de faire sortir un objet d'un domaine à l'autre, le Shabbat, sont deux qui font quatre. En la Gemara dit « Nanatam » il a été enseigné une Mishnah là-bas dans Maseret Shabbat Davbet. « Yetziot Shabbat Shtaim Shen Arba Bifnim » les cas concernant l'interdiction de faire sortir un objet le Shabbat sont deux qui font quatre. À l'intérieur, c'est-à-dire pour la personne qui se trouve à l'intérieur dans la maison, donc dans le domaine privé, ou Shtaim Shen Arba Bachutz, et il y en a deux qui font quatre à l'extérieur, c'est-à-dire pour la personne se trouvant à l'extérieur, donc dans le domaine public. Alors la Gemara demande, Maishana Hacha de Tana Shtaim Shen Arba Betulo, pourquoi est-ce qu'ici la Mishnah enseigne, il y a deux cas qui font quatre et pas plus, ou Maishana Hatam, mais pourquoi là-bas dans Maseret Shabbat, de Tane, la Mishnah enseigne, Shtaim Shen Arba Bifnim, ou Shtaim Shen Arba Bachutz. Il y a deux cas qui font quatre à l'intérieur et deux cas qui font quatre à l'extérieur. La Gemara répond, Hatam deikar Shabbatou, là-bas où l'essentiel de ce qui est enseigné dans cette Maseret, c'est les lois concernant le Shabbat. Tane avot vetoldot, c'est pour cela que la Mishnah enseigne les types de travaux interdits le Shabbat et leurs dérivés. Donc, en ce qui concerne l'interdiction de déplacer un objet d'un domaine à l'autre le Shabbat, ce qui est considéré comme étant le hav, c'est-à-dire le type de travail interdit le Shabbat, c'est le fait de faire sortir un objet, donc du domaine privé au domaine public. Son dérivé est l'interdiction de faire rentrer un objet du domaine public au domaine privé. Donc la Mishnah parle de ces deux interdictions, Hacha, tandis qu'ici dans Maseret Shavuot de l'Avikar Shabbatou, où l'essentiel de ce qui est enseigné dans la Maseret ne sont pas les interdictions du Shabbat, Avot Tane, la Mishnah parle uniquement des types de travaux interdits, Vetoldot Lotane, tandis que la Mishnah ne parle pas des dérivés. La Gemara demande, Avot Maininhu Yetziot, quels sont les types de travaux interdits le Shabbat concernant l'interdiction de transporter? C'est l'interdiction de faire sortir un objet du domaine privé au domaine public, comme nous l'avons dit. Si c'est ainsi, Yetziot, Tarte Avian. Les cas où il est question de faire sortir un objet du domaine privé au domaine public ne sont que deux. En effet, il y a le cas d'une personne se trouvant à l'intérieur et il étend sa main à l'extérieur en déplaçant l'objet, donc le faisant sortir et le déposant dans le domaine public. Il y a la personne se trouvant à l'extérieur dans le domaine public et étend sa main vers l'intérieur, prend l'objet et le fait sortir. Où sont les deux cas supplémentaires mentionnés par la Mishnah? Vechi tema, et si tu veux me répondre mehen lechiyuv ou mehen leptur, que pour certains des cas, l'homme sera coupable et pour certains des cas, il sera exempté de l'offrande du korban. Et donc nous dirons que les deux premiers cas sont les cas de celui qui fait sortir un objet du domaine privé au domaine public, soit s'il se trouve à l'intérieur de la maison, soit s'il se trouve à l'extérieur, donc dans le domaine public. Et les deux cas supplémentaires sont les cas où ils sont exemptés. C'est-à-dire dans le cas où les deux ont participé au transport de cet objet. Le premier cas serait donc de la personne se trouvant à l'intérieur et qui a étendu l'objet vers l'extérieur, et c'est la personne qui se trouvait à l'extérieur, donc dans le domaine public, qui l'a pris de ses mains pour le déposer dans le domaine public. Et le deuxième cas serait le cas de la personne se trouvant à l'extérieur qui a étendu sa main vers l'intérieur, et la personne qui se trouvait à l'intérieur, donc dans le domaine privé, a déposé l'objet dans sa main et il l'a fait sortir pour le déposer dans le domaine public. Donc puisque ce sont deux personnes qui ont participé à ce travail, ils seront exemptés, ils n'auront pas l'obligation d'offrir le korban. La Gemara demande, c'est impossible, Vehadumia de Marot Negaim Katane. Pourtant, les cas enseignés par la Mishnah sont censés ressembler aux cas enseignés par la Mishnah des aspects de la lèpre. Mahatam Kulhu le Chiyuva, de la même manière que là-bas, pour les aspects de la lèpre, tous les cas mentionnés par la Mishnah sont des cas qui aboutissent à l'obligation de l'offrande d'un korban lorsqu'il guérira de sa lèpre. Af Hacha, ici aussi concernant l'interdiction du Shabbat, Kulhu le Chiyuva, tous les cas mentionnés par la Mishnah doivent être aussi des cas qui aboutissent à l'obligation de l'offrande d'un korban. Et là, Amar Rav Papa, c'est pour cela que Rav Papa dit, Hatam d'Ikar Shabbat, là-bas où l'essentiel de ce qui est enseigné dans cette Maserhet, ce sont les lois du Shabbat, Tanei Chiyuvei Upturei, la Mishnah enseigne les cas où l'offrande du korban est obligatoire et les cas où ils sont exemptés du korban. C'est pour cela qu'il y a 8 cas. Les 4 cas où l'offrande du korban est obligatoire, c'est les cas où une des personnes fait rentrer ou sortir l'objet, donc d'un domaine privé au domaine public ou vice-versa. Il y a donc deux cas pour celui qui se trouve à l'extérieur et deux cas pour celui qui se trouve à l'intérieur, celui de faire rentrer l'objet et celui de le faire sortir. Puis il y a 4 cas supplémentaires où ils sont exemptés de l'offrande du korban parce que ce sont deux personnes qui ont participé à ce travail. Donc comme nous l'avons décrit, il y a 2 cas en faisant sortir l'objet et 2 cas en faisant rentrer l'objet. Hacha, tandis qu'ici dans notre Maserhet, Chiyuvei Taneh, l'auteur de la Mishnah, a uniquement mentionné les cas où l'offrande du korban est obligatoire, ou Pturei Lo Taneh, tandis qu'il n'a pas enseigné les cas où ils sont exemptés de l'offrande du korban. Alors la Gemara demande, Chiyuvei Maininhu, quels sont les cas où l'offrande du korban est obligatoire? Yetziot, c'est l'interdiction de faire sortir l'objet, donc d'un domaine privé au domaine public. Yetziot, si c'est ainsi le cas où on fait sortir l'objet d'un domaine privé au domaine public, Tarte ou de Avian, il n'y a que 2 cas, celui de la personne qui se trouve à l'intérieur qui fait sortir l'objet, et celui de la personne qui se trouve à l'extérieur qui fait sortir l'objet. L'agma répond, Shtaim de Otsaa, il y a en fait les 2 cas où on fait sortir l'objet du domaine privé au domaine public, ou Shtaim de Achnasa, et les 2 cas supplémentaires sont les 2 cas où on fait rentrer l'objet du domaine public au domaine privé. La Gemara demande, Veha Yitziot Katane. Pourtant, la Mishnah emploie l'expression de Yitziot qui voudrait dire faire sortir l'objet, et ces cas ne sont que 2, comme nous l'avons dit. La Gemara répond, Amar Rav Ashi, Tana, l'auteur de notre Mishnah, Hachnasa Nami Hotzaa Karela. Le fait de faire entrer l'objet, le Tana l'appelle aussi Hotzaa, le faire sortir. La Gemara demande, Mimaï, d'où le sait-on? Il répond.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Hamoud Bet. D'Etnan, parce qu'il est enseigné dans une Mishnah dans Maserhet Shabbat Daf Ein Gimel, Hamoutsi Mirshut Lirshut Chayav. Celui qui fait sortir un objet d'un domaine à l'autre est coupable, il devra donc offrir un korban khatat. Milo Askinan, ne parle-t-on pas d'un cas de Kame Ayel Iyule où il fait rentrer un objet du domaine public au domaine privé, Veka Karele Hotsaa, et quand même l'auteur de la Mishnah l'appelle Hotsaa, le faire sortir. La Gemara demande, ce n'est pas une preuve, Dilma peut-être, Kamapik Mirshut Ayachid Lirshut Arabim, peut-être que la Mishnah ne parle que du cas de celui qui fait sortir un objet du domaine privé au domaine public. La Gemara répond, Imken, si c'est ainsi, si c'est cela que la Mishnah voulait dire, Nitne Hamotzi Mirshut Hayachid Lirshut Arabim, la Mishnah n'avait qu'à enseigner celui qui fait sortir un objet du domaine privé au domaine public. Mai Mirshut Lirshut, qu'est-ce que la Mishnah veut dire lorsqu'elle dit celui qui fait sortir un objet d'un domaine à l'autre? Dafilo Mirshut Arabim Lirshut Hayachid, même le cas où il fait sortir un objet du domaine public au domaine privé, donc il le fait rentrer, Beka Karele Hotsaa, et quand même l'auteur de la Mishnah l'appelle Hotsaa, le faire sortir. Beta Mamai, et quelle est la raison de cela? Pourquoi est-ce que la Mishnah appelle le fait de faire entrer, le faire sortir? L'Agma répond, Tana, l'auteur de la Mishnah considère que Kol Akirat Refetz Mimkomo, tout déplacement d'un objet de l'endroit où il se trouve, Hotsaa Karela, il l'appelle le faire sortir. Parce qu'en fait, il le fait sortir de l'endroit où il se trouve pour le faire rentrer dans un nouvel endroit. Donc même s'il le fait rentrer du domaine public au domaine privé, par rapport à l'objet, nous considérerons que nous l'avons fait sortir. Amar Ravina, Matnitin Namideka, nous pouvons aussi le déduire de notre Mishnah, par exemple celle qui est enseignée au début de Maseret Shabbat. Dekatane, parce qu'il est enseigné dans cette Mishnah, Yetziot Shabbat Shtaim Shen Arba Bifnim. Les cas concernant l'interdiction de faire sortir un objet le Shabbat sont deux qui font quatre à l'intérieur, donc pour celui qui se trouve à l'intérieur, ou Shtaim Shen Arba Bachutz, et deux qui font quatre pour celui qui se trouve à l'extérieur. Vekamefaresh Hachnasa, et immédiatement après, la Mishnah explique le cas de celui qui fait rentrer un objet à l'intérieur de la maison. Nous apprenons de là que le terme de Yetziot s'applique aussi pour celui qui fait rentrer un objet du domaine public au domaine privé. La Gemara conclut, Shmamina, effectivement, c'est une bonne preuve. Rava Amar, Rava propose une autre réponse. Reshuyot Katane. Lorsque la Mishnah emploie le terme de Yetziot, la Mishnah veut dire par là les domaines. C'est-à-dire, Reshuyot Shabbat, les domaines concernant le Shabbat Shtaim sont deux. En effet, il existe le domaine public et le domaine privé. Shehen Arba, qui donne lieu à quatre interdictions, donc deux de faire sortir l'objet, soit dans le cas où une personne se trouve à l'intérieur, soit où elle se trouve à l'extérieur, et deux autres de faire rentrer l'objet, soit dans le cas où la personne se trouve à l'extérieur, soit dans le cas où elle se trouve à l'intérieur. Nous avons fini ici le shiur de Shvuot Dafhe. Nous commençons le shiur de Maseret Shvuot Davav. Nous commençons Dafhe Amud Bet, aux deux points, au milieu de la page. Pour comprendre cette Gemara qui va parler de la plaie de la lèpre, nous ferons une petite introduction. La plaie de la lèpre est une plaie d'une blancheur éclatante, et la Torah emploie aussi la description qu'elle paraît plus profonde que la peau saine qui l'entoure, qui elle est plus sombre. La Gemara se base sur cette description, et nous l'emploierons aussi. Il a été transmis oralement au Chachamim qu'il existe quatre types de blancheur éclatante, dont l'une est au-dessus de l'autre. Selon la description de la Torah, nous dirons donc que la blancheur la plus éclatante est le degré de blancheur le plus bas, puis le degré au-dessus est un blanc moins éclatant, donc plus sombre, etc. Il existe donc quatre types de blancheur, celle de la neige qui est considérée comme étant le degré de blancheur le plus bas, donc la blancheur la plus éclatante. Le deuxième degré est la blancheur de la laine. Le troisième est celui de la chaux. Le quatrième est celui de la coquille d'œuf. La plaie de la lèpre aura donc impérativement l'une de ces quatre nuances de blanc. Mais si la plaie est plus sombre, c'est ce que la Torah appelle bohak, qui n'est pas une lèpre. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Marot negaim shnaim shein arba'a » Les aspects de la lèpre sont deux qui font quatre. La Gemara dit là-dessus « Tnanatam » Il a été enseigné dans une Mishnah là-bas dans Negaïm, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Marot Negaïm, Shnaim Shein Arbaa. Les aspects de la lèpre sont deux qui font quatre. Baheret, la plaie appelée Baheret, est une plaie dont la blancheur est la plus éclatante. Aza Kacheleg est aussi éclatante que la neige. Shniala, son dérivé, Kesida Echal, est aussi blanche que la chaux employée pour peindre le temple. Se'et, la plaie de lèpre appelée Se'et, qui veut dire élevé, parce que sa blancheur est moins éclatante que celle de la Baheret, qui veut dire clair. Autrement dit, son degré de blancheur est plus haut. Ketsemer Lavan, son degré de blancheur ressemble à la laine blanche. Shniala, son dérivé, Kikrumbetsa, ressemble à la coquille d'œuf. Finalement, selon la description de la Mishnah, nous avons deux types de lèpre. Celle appelée Baheret, qui est la plus blanche, et son dérivé, qui ressemble à la chaux, donc son degré de blancheur est de 2 degrés au-dessus de celle de la neige. Nous avons la plaie appelée Se'et, dont le blanc est 1 degré supérieur à celui de la neige, et son dérivé, qui ressemble à la coquille d'œuf, qui est 2 degrés au-dessus du deuxième type de lèpre, appelé Se'et. Amar Rabbi Hanina, Mantana Marot Negaim, quel est l'auteur de cette Mishnah qui décrit les aspects de la lèpre sous forme de type de lèpre et de dérivé, en accordant un dérivé à chacun des types de lèpre? De l'oke Rabbi Akiva, cette Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Akiva. De i Rabbi Akiva, parce que si cette Mishnah devait suivre l'opinion de Rabbi Akiva, Kivan de Amar zu le mala mizu, bezu le mala mizu, puisque, comme nous le verrons par la suite, Rabbi Akiva pense que les aspects de la lèpre sont disposés de manière à ce que celui-ci soit au-dessus de celui-ci et celui-ci est au-dessus de celui-ci, c'est-à-dire, comme il est expliqué dans Maseret Negaïm, une personne devient impure lorsqu'il est atteint de la lèpre, uniquement si cette plaie a la taille d'une fève. Alors la question va se poser, lorsqu'une personne est atteinte d'une plaie de lèpre, de la taille requise, mais en fait, cette plaie est composée de deux plaies, ayant chacune un aspect différent. La question se pose donc, est-ce que ces deux plaies peuvent s'associer pour former une plaie de la taille d'une grosse fève, et ainsi déclarer l'homme impur? Alors en plus du fait que la Baheret peut s'associer avec la Se'et, c'est-à-dire la plaie dont l'aspect est comme celui de la neige, peut s'associer avec la plaie dont l'aspect est comme celui de la laine blanche, comme la Braïta dans le Torah de Kohanim le déduit d'un pasouk dans le paragraphe concernant la lèpre, il semble évident que chaque plaie peut s'associer avec son dérivé. Maintenant, lorsque Rabbi Akiva les classe selon l'ordre de la nuance de la blancheur, en les situant l'une au-dessus de l'autre, il voudrait dire qu'une plaie ne peut s'associer avec la plaie dont la nuance est la plus proche, donc avec un degré de différence, et non pas deux degrés de différence. Donc si l'auteur de la Mishnah, qui classe les plaies en deux groupes, de manière à ce que chacun des types de lèpre a un dérivé, et la plaie d'une blancheur équivalente à celle de la chaux, et le dérivé de la Baheret, dont l'aspect est équivalent à celui de la neige, donc 2 degrés en dessous. Imken tiharta sid hechal miletzaref. Si c'est ainsi, tu purifies la plaie dont l'aspect est équivalent à celui de la chaux employée pour peindre le hechal, le temple, en ce sens qu'il est impossible de l'associer avec une autre plaie. Et cela parce que behademan litzarfe, avec quel type de plaie peux-tu l'associer? Litzarfe behade baheret. Est-ce que tu pourras l'associer avec la Baheret, dont l'aspect est équivalent à celui de la neige? C'est impossible. Ika Se'et de Adifamine, parce qu'il existe la plaie appelée Se'et, dont l'aspect est équivalent à celui de la laine blanche. Son aspect est donc un degré en dessous de celui de la chaux. Il se trouve donc que la Baheret, dont l'aspect est équivalent à celui de la neige, se situe à 2 degrés de profondeur en dessous de cette plaie qui ressemble à la chaux. Alors que selon l'opinion de Rabbi Akiva, une plaie ne peut s'associer qu'avec une autre plaie dont l'aspect est le plus proche, donc avec un seul degré de différence. Litzarfe behade se'et. Ici, tu veux dire qu'il s'associe avec la plaie nommée se'et, dont l'aspect ressemble à celui de la laine. C'est impossible, parce que l'avtoldadidehu, selon l'auteur de la Mishnah, cette plaie dont l'aspect ressemble à celui de la chaux n'est pas le dérivé de la se'et. Il n'y a donc aucune raison qu'il ne s'associe. Finalement, si la Mishnah devait suivre l'opinion de Rabbi Akiva, il aurait été impossible d'associer une plaie dont l'aspect ressemble à la chaux avec une autre plaie. Alors la Gemara demande, « Yachi, si c'est ainsi, c'est-à-dire si tu interprètes ainsi les paroles de Rabbi Akiva, voir le Tosfot et le Maharsha. Krum Betzanami, la plaie dont l'aspect ressemble à la coquille d'œuf. Aussi, nous pouvons nous poser la même question. Behademan Litzarfe, avec quelle autre plaie peux-tu l'associer? Litzarfe, Behade Seet, si tu veux l'associer avec la plaie nommée Seet, qui ressemble à la laine, c'est impossible, parce que Ikasid Deadif Mine, parce que l'aspect de la chaux est meilleur, c'est-à-dire est un seul degré en dessous, et c'est avec lui qu'il devrait s'associer, et non pas avec la plaie qui ressemble à la laine, qui se trouve 2 degrés en dessous. Litzarfe Beadesid, si tu veux l'associer avec la plaie qui ressemble à la chaux, qui ne se trouve qu'un degré en dessous, c'est aussi impossible, parce que l'avarminehu, cette plaie n'est pas de la même famille. En effet, la plaie qui ressemble à la chaux est le dérivé de la baheret, tandis que la plaie qui ressemble à la coquille d'œuf est la dérivée du suet. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Hanina s'est posé la question uniquement sur la plaie qui ressemble à la chaux et non pas concernant celle qui ressemble à la coquille d'œuf?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.